Chapitre 6. Marie. Mon oncle, pourquoi n'empruntons-nous jamais ce couloir ? Marie aidait Drosselmeyer à transporter une caisse de pièces détachées dans un couloir du manoir. Un couloir assez insolite, avec son sol carrelé rouge, or et noir. Avec son drôle de papier peint aussi. Mais entre les toiles d'araignée et les créations poussiéreuses exposées là, Marie n'en discernait pas les motifs. Drosselmeyer s'épousseta les mains pour ne pas souiller son pantalon. Il s'affichait toujours sur son 31, même pour ce genre d'activité. « Ma chère enfant, » déclara-t-il, « lorsque tu auras mon âge, tu te rendras compte que tout ce que tu possèdes ne t'est pas indispensable. Loin de là. » Un coup d'œil circulaire au mur et au plafond du couloir, comme s'il découvrait les lieux pour la première fois, et il ajouta « J'habite ce manoir depuis fort longtemps. Pour autant, je n'en connais pas tous les secrets. Plus jeune, je l'aurais peut-être exploré de fond en comble. Désormais, je préfère me consacrer à mon atelier, où je me sens chez moi. » « Mais ici aussi, c'est chez vous, » objecta Marie. « Certes. Mes inventions y sont toutefois plus en sûreté, quand je ne m'en occupe pas. » Marie admirait tous ces appareils abandonnés de longue date. Des machines à coudre équipées de rouages et de pistons reliés aux pédaliers. Une bicyclette avec un soufflet connecté à un poêle à bois. Une paire de... patins roulettes à vapeur ? « C'est vous qui avez créé tout cela ?» demanda la jeune fille. « Oui et non, » répondit Drosselmeyer. « Certains de ces bijoux, je les ai rapportés de mes voyages. Mais je les ai tous triturés, ça oui, et je pourrais te raconter des histoires pour chacun d'eux. Celui-ci, par exemple ?» Marie désignait un ballon miniature suspendu à un crochet. Un minuscule panier avec tapis roulant intégré était lui-même suspendu au ballon par des ficelles. « Montgolfière pour souris !» expliqua Drosselmeyer. De sorte que nos amis les plus petits puissent eux aussi profiter des joies du ciel. « Et celui-là ?» gloussa Marie en montrant ce qui ressemblait à deux ailes mécaniques. « Ah, la grande évasion aérienne !» révéla Drosselmeyer. « Un souvenir de ma jeunesse. Ne nous embarquons pas là-dedans. »« Et celui-là encore ? Cet objet en or, qu'est-ce que c'est ?» À la lueur d'une lampe, Marie et Drosselmeyer distinguaient à peine l'éclat de l'objet en question, tout au bout du couloir. « Ça alors ?» s'étouffa le maître des lieux. « Que fabrique-t-il ici ?» Il se fraya un chemin entre les pièces détachées poussiéreuses et s'arrêta devant le mystérieux appareil. « De quoi s'agit-il, mon oncle ?» le pressa Marie qui le suivait d'un pas prudent. « On dirait une... » Devant eux se dressait la superbe horloge que Drosselmeyer avait montrée à l'enfant dans son atelier lors de son premier Noël chez lui. Cette création était à présent recouverte d'une épaisse couche de poussière. Les chiffres s'effaçaient. Un peu comme si elle s'était éteinte et attendait qu'une lumière dorée la rallume de l'intérieur. « Ce ne serait pas l'horloge que mon père vous a aidé à réparer ?» crut reconnaître Marie. « Mais si, » confirma l'inventeur en hochant lentement la tête. « Je ne saisis toutefois pas ce qu'elle fait là. J'aurais juré qu'elle se trouvait encore dans mon atelier. Moi aussi, je la consulte tous les matins. Mais à en juger par toute cette poussière, elle n'est pas arrivée hier. » C'est étrange, mon oncle, je ne me souviens pas qu'elle ait disparu. Et je ne me rappelle pas l'avoir déplacée, abonda Drosselmeyer. Étrange, en effet. Marie lut sur le visage de son bienfaiteur une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. La stupéfaction. Et la porte ? Où donne-t-elle ? Voulut-elle savoir. Drosselmeyer se tourna vers sa protégée, interloquée. La porte, fit-il. Oui, derrière l'horloge. L'homme regarda dans la direction indiquée. Son œil valide s'ouvrit en grand. Une lourde porte en bois se découpait en effet derrière l'horloge. Imposante. Calfeutrée.
De mieux en mieux, pesta l'homme. J'ignore ce qu'elle cache. Je ne l'ai jamais ouverte.
Vous voulez qu'on essaie ? Proposa Marie.
Oui, approuva Drosselmeyer. Excellente idée. Les deux inventeurs déplacèrent délicatement l'horloge. Son socle grinça en signe de protestation, laissant de larges traces dans la poussière du sol.
« Oh !» s'exclama Marie. Quelque chose avait bougé derrière l'horloge.
Crac ! Une grosse souris. La rongeuse décrivit un cercle avant de disparaître dans le fatras d'invention du couloir.
« Notre petite camarade sait peut-être déjà ce qui nous attend derrière la porte ?» gloussa Drosselmeyer.
Découvrons-le à notre tour. Il saisit la poignée. On compte jusqu'à trois, suggéra-t-il à Marie. Ensemble, ils comptèrent, puis ensemble, ils poussèrent le lourd battant. Une bouffée de poussière se diffusa dans le couloir. Derrière la porte, le noir absolu. Aucune fenêtre, aucune lumière. Franchir le seuil reviendrait à s'engager dans un abîme.
« Ça ne me dit rien qui vaille, » souffla Marie, craintive. « Vous ne pensez pas que c'est dangereux ?»«
Allons, du nerf !» l'encouragea Drosselmeyer. « La Marie que je connais est toujours prête pour l'aventure. Du moment que je suis là, tu ne risques rien, promis. » Pour la rassurer davantage, il posa une main sur son épaule. Après quoi, ils s'avancèrent dans l'inconnu. Les premiers instants, ils ne distinguaient pas grand-chose. Mais chemin faisant, leurs yeux s'habituèrent à l'obscurité. Ils progressaient dans un couloir d'une longueur impossible. Ils s'éloignaient de plus en plus de celui aux carreaux rouges, noirs et or. Une bourrasque de vent balaya les cheveux de Marie.
« Il y a forcément un trou dans un mur quelque part ?» raisonna la fille.
« J'aperçois quelque chose !» annonça-t-elle soudain. « Là-bas. » Une lueur douce se dessinait en effet au bout du tunnel. Rose d'abord, puis orange et jaune.
« Mon oncle ?» poursuivit Marie. « Les murs sont couverts d'écorce ?»
Drosselmeyer tâta à son tour les parois du couloir. « Exact, » convint-il. « Cela est très curieux. » Les deux explorateurs poursuivirent leur chemin dans une lumière de plus en plus forte. Les murs semblaient s'estomper au profit de troncs d'arbres. Quand le soleil se leva, Marie et Drosselmeyer découvrirent où ils se trouvaient.
« Mon oncle, nous sommes dans une forêt !» énonça la fille.
Et elle avait raison. Devant eux s'étirait une immense étendue de sapins. Des sentiers herbeux nimbés de poussière sillonnaient entre les arbres. L'air embaumait le pin.
« La porte donnait sur l'extérieur ?» affirma Marie.
Son oncle secoua la tête et rectifia. « Il n'y a pas de forêt à Londres.
Nous voici rendus ailleurs. »« Comment est-ce possible ?»
le relança la jeune fille. « Je ne saurais le dire, » répliqua l'homme. « Tâchons de voir si les réponses ne nous attendent pas plus loin. » Alors ils s'enfoncèrent parmi les arbres. Mais ils avaient beau progresser, ils ne découvraient que de nouvelles questions. Cette forêt semblait gigantesque, striée de sentiers qui s'inhumaient entre les sapins majestueux qui tutoyaient le ciel bleu éclatant. Marie et Drosselmeyer choisissaient à tour de rôle le chemin à suivre, en veillant à laisser des pommes de pin derrière eux, pour ne pas se perdre. L'endroit était remarquable, estimait Marie. Le vert des arbres était d'une intensité folle, presque vivant. Nulle part elle n'apercevait une aiguille marron ou une branche abattue. Jamais elle n'avait vu de forêt si parfaite. Drosselmeyer et elle marchèrent près d'une heure sans comprendre où ils se trouvaient. Et enfin, alors que Marie sentait son ventre gargouiller, les arbres s'espacèrent et la fillette perçut un bruit d'eau.
« Vous entendez, mon oncle ? » demanda-t-elle.
« On dirait une rivière. »«
Possible, » concéda l'homme.
« Une cascade, plutôt. » Sitôt les derniers arbres dépassés, ils débouchèrent dans le soleil. La rivière ou la cascade devenait assourdissante et tout à coup, ils eurent devant eux la fin de la forêt et le début de tout.
« Mon oncle !» s'étrangla Marie. « On se croirait dans un autre monde !»
Drosselmeyer et elle avaient atteint un promontoire herbeux dominant un paysage fabuleux, infini et d'une pureté à couper le souffle. Les fleurs des champs recouvraient les prés sur des kilomètres et des kilomètres, des vagues de couleurs apaisantes. Au loin, les montagnes scintillaient. On devinait tout juste leur sommet enneigé. À quelques pas des deux explorateurs, un précipice de plusieurs dizaines de mètres aboutissait à une rivière en furie. Le canyon serpentait autour d'un îlot central, séparé des prés et des montagnes tel un sanctuaire immaculé. Une chute d'eau se déversait dans l'abîme. L'îlot n'était relié au reste des terres que par un unique pont de pierre. Aucun être humain, aucun animal en vue dans ce décor de rêve. L'endroit semblait inhabité. Exception faite d'un détail.
Un palais, souffla Drosselmeyer.
Un palais somptueux se dressait en effet sur l'îlot. Ses pierres colorées scintillaient au soleil, ses tours s'élevaient en spirales percées de fenêtres luisantes de cristal et de verre. Les dômes décorés qui surmontaient chacune de ces structures ressemblaient, aux yeux de Marie, à de la crème glacée. Le cœur de la fillette s'emballait à la vue de tant de beauté. Une vraie vision de conte de fées, un rêve devenu réalité. L'imagination qui aurait pris vie.
Où sommes-nous, mon oncle ?
Parvint à peine à dire Marie.
Je l'ignore,
lui répondit Drosselmeyer tout aussi ébahi.
Ce n'est pas à cela que je m'attendais en franchissant la porte.
Mais puisque nous sommes là, autant poursuivre l'exploration.
Et les explorations se répétèrent chaque jour pendant près d'un mois, entre les séances de bricolage et les leçons. Le paysage paraissait s'étendre à l'infini, avec d'innombrables kilomètres de prés, de vallées et de ruisseaux à franchir. Le palais central lui-même contenait plus de pièces qu'on en pouvait visiter en un seul jour. Comme si un royaume entièrement nouveau s'était ouvert derrière la porte de ce couloir poussiéreux et abandonné. C'était d'ailleurs ainsi que Marie et Drosselmeyer appelaient cet endroit fabuleux. Le royaume. Où exactement se situait le royaume ? Ils n'en avaient aucune idée. Drosselmeyer, qui avait voyagé aux quatre coins du monde, était certain que ce territoire mystérieux n'apparaissait sur aucune carte. Pourtant, Marie et lui découvrirent trois choses. La première, c'est que le royaume n'était peuplé d'aucun être humain ni d'aucun animal. Quelqu'un avait certes dû construire le palais, mais cette personne ou cette créature s'en était allée depuis longtemps. Les pièces immenses demeuraient désertes et vides, sans meubles ni éléments de décoration. Comme si elles attendaient qu'un nouvel invité ou propriétaire les emplisse de vie et de souvenirs. La deuxième chose qu'ils découvrirent, c'est que le temps s'écoulait beaucoup plus lentement au royaume que dans le monde extérieur. Marie et Drosselmeyer pouvaient se promener des heures dans les prés, quelques minutes à peine avaient passé au manoir. Enfin, rien de ce qui se trouvait au royaume ne pouvait être rapporté dans le monde réel. Marie l'avait découvert par accident. Un jour que Drosselmeyer et elle pique-niquaient dans l'herbe, elle s'était tressé une couronne de fleurs sauvages. « Magnifique, Marie, magnifique !» l'avait complimenté Drosselmeyer. « Rassurez-vous, mon oncle !» avait embrayé la fille. « Je vais vous en tresser une autre. » Le vieil homme avait pouffé avant de reprendre. « Les meilleurs inventeurs sont ceux qui ne perdent pas leur capacité à s'émerveiller. Tâche de t'en souvenir. » Plus tard, Drosselmeyer et Marie avaient regagné le manoir, chacun coiffé d'une couronne de fleurs. Mais à l'instant où ils avaient franchi la porte et basculé dans le monde réel, les fleurs avaient disparu comme des grains de poussière dispersés par le jour. « Oh !» s'était exclamée Marie. « Où sont-elles passées ?»« Je l'ignore, » lui avait dit son oncle en lui tapotant la tête. « Je n'avais jamais envisagé de rapporter un souvenir du royaume dans le monde réel. Curieux. Ces fleurs étaient pourtant bien réelles, non ? Elles l'étaient quand je les tressais. Mais je me rappelle avoir pensé qu'il m'en faudrait des bleus pour votre couronne, alors que je ne disposais que de roses. Et là, j'ai soudain aperçu des fleurs bleues qui poussaient à portée de ma main. C'était bizarre parce que j'étais certaine qu'il n'y avait que des roses auparavant. Tu aurais donc imaginé des fleurs bleues qui, ensuite, seraient apparues ? Je ne suis pas sûre. Peut-être ? Encore plus curieux. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Marie redoutait que leur découverte fantastique n'ait été qu'une illusion. À mon sens, avait affirmé Drosselmeyer, certaines choses sont possibles au royaume, mais pas dans le monde réel. Donc le royaume ne serait pas vraiment réel ? Elle aimait beaucoup ce nouvel univers. Elle adorait l'explorer avec son oncle. Tout cela ne pouvait quand même pas être une illusion. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'avait relancé Drosselmeyer. Au contraire, le royaume est extraordinaire, et on ne peut plus réel. À sa façon. C'est une création de l'imagination. Alors vous estimez que j'arriverai peut-être à faire apparaître d'autres choses dans ce monde-là ? Comme les fleurs bleues ? Drosselmeyer avait pris le temps de la réflexion avant de répondre. Pourquoi pas ? Après tout, l'imagination est le berceau de l'invention. Un large sourire s'était dessiné sur les lèvres de Marie. Oh merci mon oncle, merci mille fois ! Songez à tout ce que nous allons pouvoir créer au royaume ! Nous allons bien nous amuser ! Le vieil homme avait ri de voir sa protégée jubiler. « Je crois que nous sommes au début d'une grande aventure, mais n'oublie pas, toi seul peux donner vie à tes rêves dans le monde réel. Et il n'existe qu'une seule Marie dans le monde réel. Tâche de ne pas te perdre irrémédiablement au royaume. »« Je vous le promets, mon oncle, » avait juré Marie.